consigne était de vous, déjà, ce sera de vous présenter un petit peu le contexte culturel, géographique, pour que vous sachiez où ça se trouve, et puis ensuite les possibles difficultés que vous pouvez rencontrer ou que surtout les enfants peuvent rencontrer. Donc le Tibet, en fait, très souvent on pense que le Tibet c'est minuscule. En fait, le Tibet c'est grand comme l'Europe de l'Ouest. Donc vous allez de Lisbonne à Stockholm et vous avez le Tibet. Hein, donc c'est immense. Et si vous prenez ce cliché de la NASA, vous voyez que c'est le haut plateau en fait. Hein, c'est ce haut plateau qui fait la jonction en fait entre le monde chinois et le monde indien. D'accord ? Donc voilà d'où viennent les étudiants, les enfants que vous avez. En réalité, ils ne viennent pas forcément tous du Tibet. Beaucoup passent par l'Inde. C'est-à-dire que le drame des Tibétains, c'est ce qu'on peut appeler ce double exil. C'est-à-dire qu'ils viennent une première fois du Tibet. Ils sont donc 6 millions au Tibet. Je vais rapidement vous expliquer pourquoi ils quittent le Tibet. Je pense que la plupart d'entre vous le savent. Hein. Donc sur les 6 millions de Tibétains, disons, actuellement, on a 6 millions de Tibétains au Tibet, environ 150 000 en Inde et Asie du Sud, donc Inde principalement, Népal, Bhoutan un petit peu. Ils sont à peu près 150 000, donc ils font une première étape. Ils restent plus ou moins longtemps en Inde et on va voir dans quelles conditions. Et puis ensuite, bon, évidemment, la carte ne dit pas, c'est que pour passer du Tibet à l'Inde, il faut franchir l'Himalaya, donc on le traverse à pied parce qu'ils n'ont pas le droit de sortir du pays, donc... Ce sont des épreuves pour les parents, souvent, bien sûr, et les enfants qui sont portés sur le dos. Enfin bon, je ne vais pas vous faire pleurer, mais ce sont quand même des vies un peu compliquées. Il y a aussi des parents, des gens qui partent en Inde sans enfants et qui ont des enfants tibétains en Inde. Et là, donc, c'est un simple déracinement. Donc, selon les enfants que vous aurez soit ce double déracinement, soit un seul enfant né au Tibet, venu en Inde avec les parents, puis en France, ou enfant tibétain né de parents tibétains, mais en Inde, et venu en France. En France, ils sont 500 000, à peu près tous concentrés en région parisienne. 5 000 bientôt 500 000. Ils sont 5 000 en région parisienne, bien principalement en région parisienne. On n'a pas énormément de chiffres, puisque le Tibet n'est pas un pays, il n'y a pas d'ambassade, il y a une représentation paraconsulaire, mais il n'y a pas vraiment d'ambassade, donc on ne sait pas très bien, les chiffres ne sont pas très fiables. Donc il y aurait plusieurs centaines d'enfants quand même tibétains répartis dans toute l'Île-de-France. Je sais qu'il y en a à Nanterre, pas mal, et puis à Paris un petit peu, puis je ne sais pas, je vois que vous en avez. Alors les langues, donc d'un point de vue linguistique, quand ils sont au Tibet, s'ils sont nés au Tibet, ils ont parlé tibétain, j'ai mis un S entre parenthèses, parce que vous imaginez que quand on est dans un pays si vaste, avec une population si faible, il y a beaucoup de dialectes qui se développent. Donc quand vous êtes chez vous, vous parlez le dialecte local. Quand vous allez à l'école, si vous avez la chance d'avoir du tibétain à l'école, vous risquez d'avoir un tibétain un peu plus standard. Et puis, vous avez aussi le chinois qui vient par la télévision et puis l'environnement quotidien. Donc déjà, vous êtes en contexte de, peut-être presque trilingue entre le dialecte, la langue plus standard et puis le chinois. Vous arrivez en Inde, là, vous avez plutôt le tibétain standard parce que les dialectes, on les oublie hein, peu à peu. Et vous avez aussi l'anglais et le hindi. Hein, donc, ils sont déjà dans trois langues différentes. Et puis, quand elles arrivent en France... plutôt mal préparés parce qu'ils n'ont jamais appris le français. Le français n'est pas du tout enseigné hein, en zone tibétaine, sauf en prévision maintenant de l'exil qui est de plus en plus massif vers la France. Il y a une école qui s'est montée en Inde où on enseigne le français aux enfants à but de préparation du voyage. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont en exil ? Eh bien, vous avez la version, disons, chinoise à gauche, hein, donc une annexion en réalité, bon, appelée libération par la République populaire de Chine, mais du point de vue tibétain, c'est plus une annexion du Tibet par la République populaire de Chine dans les années 50. Tentative de, disons, de cohabitation entre le gouvernement tibétain de l'époque et puis les forces chinoises. Et ça a conduit à un exil du Dalai Lama, qui est toujours vivant. Hein. Il est né en 35. Il est sorti donc à l'âge de 24 ans en exil. C'est lui qu'on voit à gauche. Alors, on ne le voit jamais habillé en habit laïque, mais pour pouvoir fuir et ne pas se faire remarquer, il s'est habillé en... Peut-être qu'on ne peut pas éteindre pour que vous voyez mieux. Il est en laïque, là, avec son entourage. Donc, il a été suivi d'environ... Enfin, il est venu avec donc son gouvernement, 80 000 Tibétains, à peu près. Et comme c'était un... Non, je crois que... Ouais. C'était un... C'est pire... Non, mais c'est pas grave. Merci. Il y avait un gouvernement au Tibet, hein, et donc les transferts a été faisable. Oui, c'est peut-être mieux quand même. Le transfert a été assez, disons, rapide. À l'époque, en 59, ils ne savaient pas qu'ils allaient rester. Et le Dalai Lama n'est toujours jamais retourné au Tibet. On n'est encore pas retourné au Tibet depuis 1959. Régulièrement, on entend des frémissements de pourparlers, mais enfin, pour l'instant, rien n'est à l'ordre du jour hein, de ce goût-là. Donc, il est en exil et ils ont reconstruit un gouvernement, ce qu'on appelle un para-gouvernement, en fait, qui est accepté par l'Inde. Avec des structures, quasiment, ils fonctionnent quasiment comme un État dans l'État, avec quand même pas de monnaie, pas d'armée, pas de poste, mais ils ont développé une vie, enfin une deuxième vie, assez rapidement et avec pas mal de succès en Asie du Sud. Alors je ne mets pas l'Inde, mais la plupart des Tibétains sont en Inde, au Népal un petit peu, au Bhoutan un petit peu aussi. Donc en fait, en Asie du Sud, ils se sont installés dans des camps, avec l'accord de l'Inde, et ces camps sont devenus assez florissants. Et ils restent pas mal dans l'entre-soi. Les Tibétains, ils ont très peur de perdre leur culture, qu'ils considèrent comme la plus belle du monde. Et donc, ils ont peu d'interaction avec le monde indien où ils vivent, et parce que c'est lié à un maintien important, un souhait important d'un maintien de l'identité tibétaine qui les structure beaucoup. Et, important pour vous, les enfants sont scolarisés dans des réseaux d'écoles tibétaines. C'est-à-dire que quand vous êtes... Et en fait, les enfants tibétains ne vont pas à l'école indienne quand ils sont en Inde. Je ne parle pas des enfants tibétains du Tibet, parce qu'en réalité, les gens qui arrivent en France, c'est très rare qu'ils arrivent directement du Tibet. Hein. Les Tibétains, ils passent toujours par une étape de plusieurs années en Inde. Donc, très vraisemblablement, si vous avez des enfants tibétains dans vos classes, ils ont passé du temps dans des écoles tibétaines en Inde. Hein. Je ne parle pas de la situation en Chine. Donc, je vais vous parler très brièvement de ces écoles. On a 73 écoles internats qui sont dispersées sur tout le territoire indien, 24 000 enfants, et c'est une sorte de success story parce qu'ils sont scolarisés et alphabétisés, j'aurais dû mettre, à 90%. Hein, donc, ce sont des petites classes avec un programme spécifique pour les Tibétains qui est accepté par l'Inde, hein, toujours en collaboration avec les autorités indiennes, le ministère de l'éducation indien, mais ça marche plutôt bien. Ils sont bien éduqués, bien suivis. Ils sont donc plus éduqués que des enfants qui arrivent de l'Inde, hein, des Indiens qui arrivent de l'Inde, je veux dire. Donc, c'est une éducation qui est quand même assez nationaliste. Hein, ils sont en exil. Ils n'ont qu'une envie, c'est de retrouver le Tibet, que le Tibet devienne indépendant ou, disons, ait plus de marge de manœuvre au sein de la Chine. Et donc, on leur enseigne l'histoire du Tibet. C'est une éducation assez religieuse. Hein, il y a des prières quotidiennes. Les Tibétains sont bouddhistes, on va en parler. C'est une éducation multilingue. Donc, le Tibétain dialectal des parents qu'ils peuvent garder à la maison, le Tibet qu'on appelle commun ou standard scolaire, l'anglais qu'ils apprennent à l'école, le chinois quand ils sont encore en Chine, mais en réalité, en général, ils passent toujours plusieurs années en Inde, donc plutôt l'anglais qu'ils apprennent à l'école, en même temps que le tibétain de l'école. Et le hindi, quand ils sortent de l'école, eh bien là, ils sont dans un monde... Alors, je dis hindi, mais ça peut être telugu, ça peut être bengali, s'ils sont dans le haut bengal, occidental, etc. Donc, ils ont une langue aussi vernaculaire indienne, voilà, qu'ils apprennent comme ça en allant au marché. Donc, ils parlent toujours... En fait, ils sont souvent quadrilingues, mais en réalité, ils ne sont pas vraiment quadrilingues parce qu'ils parlent assez mal l'anglais au final. Le tibétain n'est pas très bien maîtrisé dans sa forme écrite. Et puis, les langues indiennes sont apprises comme ça. Ce sont des langues plutôt parlées que des langues qu'ils savent écrire et ne savent pas écrire. Quelque chose d'important à savoir aussi, c'est que les parents sont déresponsabilisés de l'éducation. Donc, ça, c'est pour votre rapport avec les parents des enfants tibétains. Quand vous avez des enfants tibétains avec vous, les parents, comme ce sont ils viennent d'un monde, s'ils ont passé du temps en Inde, ce qui est très vraisemblable, où les enfants sont envoyés dans des internats. Et donc, ils voient et l'Inde, c'est grand. Hein, donc, parfois, l'internat est assez loin de chez eux. Donc, ils ne voient pas leurs enfants pendant 3-4 mois. Et l'éducation, c'est l'affaire des profs. Donc, l'éducation à la maison, le suivi des cours, il n'y en a quasiment pas. D'abord, ils voient. Donc, arrivés en France, ils ne comprennent pas très, très bien leur rôle. Donc, il faut vraiment les responsabiliser, leur dire. Alors, ils sont en même temps très gênés parce qu'ils ne comprennent en général pas le français, ils ne savent pas comment marche le système éducatif, ils font pleine confiance aux professeurs et ils ont tout à fait raison. Mais enfin, ils ont du mal à prendre des initiatives ou à dire ben voilà, moi, nous, on voudrait ça ou on se pose des questions parce que ça. Hein, vraiment, la figure du professeur, c'est vraiment. Vous avez dû les voir dans l'interaction, et ce n'est pas les seuls. Hein, en Asie, souvent, il y a quand même la figure vraiment erratique du professeur. Donc, les parents, une petite anecdote, un enfant qui a des problèmes psychologiques que Camille Simon, ma collègue, suit, eh bien, les professeurs, les instituteurs avaient suggéré qu'il aille dans un camp le samedi après-midi, un camp d'animation, enfin, vous voyez, comment on appelle ça, centre aéré le samedi après-midi. Donc, il est allé une fois, et puis ils lui ont demandé quand même, quand il est revenu, ce qu'il avait fait. Eh bien, il dit, j'ai joué. Ah ben non, alors donc, il n'y est plus retourné. Hein, parce que l'école, c'est pour apprendre, c'est pas pour jouer. Donc voilà, ils ont une vision très stéréotypée de ce qu'on fait à l'école, pas de jeu, hein, de l'apprentissage, du rabâchage, on bourre le crâne, et nous-mêmes, on ne prend pas d'initiative en tant que parents. Et ils sont peu éduqués, de toute manière, et en français, n'en parlons pas. Donc c'est compliqué pour eux aussi de prendre l'éducation de leurs enfants en main. Donc vous voyez, illustrer l'aspect nationaliste de cette photo, évidemment, vue de loin, et si vous ne connaissez pas le monde tibétain, ça ne vous dit rien, mais là, vous avez un grand drapeau tibétain, donc c'est une école, hein, et puis là, vous avez des enfants qui forment en fait la carte du Tibet. Voilà. Donc, ils sont toujours hein, dans une éducation où on leur signifie bien qu'ils sont tibétains, qu'il ne faut pas oublier le Tibet. Alors, c'est compliqué ici en France, bien sûr. Alors, en plus, ils se sentent détenteurs d'une exception culturelle tibétaine. Le Tibet a développé un bouddhisme très spécifique qui s'appelle le bouddhisme tantrique, hein, ou le bouddhisme Vajrayana. Ils en sont très fiers hein, depuis plusieurs siècles. Et pendant plusieurs siècles, ils étaient donc sur le toit du monde et avec des peuples mongols, kalmouks, ladakhs, bhoutanais qui convergeaient. C'était un peu comme Jérusalem ou la Mecque hein, ou Rome. Donc les peuples des alentours bouddhistes arrivaient vers le Tibet. Donc ils avaient une très haute conscience hein, de leur exception culturelle et de leur, disons, de leur excellence culturelle. Et donc, comment ça se vit ? Eh bien, ça se vit en ce que, donc, ils ont une adulation hein, pour le Dalai Lama, qui est donc toujours vivant, il a 83 ans. Et puis, ils sont souvent très croyants, bouddhistes. Et là, vous avez donc un intérieur parisien. La photo n'est pas très claire, mais donc c'est un meuble. Voilà, c'est un meuble à l'occidental ici. Vous avez donc des offrandes. Et puis, le drapeau tibétain, la photo du Dalai Lama, des statues bouddhiques. Et souvent, à la maison, les enfants font des prières aussi le matin. Les parents essayent de maintenir, disons, une vie religieuse. Même s'ils ont compris hein, la séparation Église-État en France, ils savent. Hein, ils savent, ils n'attendent rien du côté de l'école d'un point de vue religieux. Mais ils essayent de le maintenir à la maison. Donc ils sont peu nombreux, 5 000. Ils sont très solidaires, disons en souffrance, hein, puisqu'ils n'ont pas de pays et que cette souffrance est réalimentée aussi par leur passage en Inde, hein, où ils ont une sorte d'État qui n'est pas un État. Et puis, il est vrai que ce qui se passe au Tibet n'est pas très rose. Donc, voilà, ils ont un sentiment identitaire très fort qu'ils essayent de faire revivre dans cette toute petite minorité. Hein. Ils sont 5 000 à Paris, principalement à Paris. Et donc, ils ont une vie communautaire assez riche. Donc, le nouvel an tibétain, donc pour eux, Noël ne veut rien dire, Pâques ne veut rien dire. Mais bon, évidemment, hein, on est dans le multiculturalisme, vous le savez. Eux, c'est le nouvel an tibétain, qui n'est pas le nouvel an chinois, qui n'est pas le nouvel an vietnamien, etc. C'est un nouvel an spécifique. Ce week-end, il y a le festival du Tibet à la pagode de Vincennes. Donc là, c'est un moment où ils se retrouvent. Moi, je connais des enfants tibétains là, qui vont à l'école dans le 11e et qui répètent des chansons parce que ce week-end, ils vont chanter lors de la grande fête tibétaine. Donc, vous pouvez aller les écouter si vous voulez, c'est toujours sympa. Ils y font des pique-niques. Les Tibétains, c'est des grands pique-niqueurs. Hein, c'est leur sport national. Ils adorent aller pique-niquer. Ils aiment chanter et danser. Donc, dans vos classes, n'hésitez pas à solliciter les enfants parce qu'en général, ça, c'est quelque chose qu'on leur apprend beaucoup à l'école quand ils sont en Inde, de chanter et danser, jouer un peu d'instruments de musique. Alors, comme ils ont quand même une forte identité culturelle et une forte idée, ils placent très haut le maintien de la langue tibétaine hein, comme une urgence, ce qui est très compliqué en France. Et donc, ils ont monté une école du dimanche. Donc, le dimanche matin, il y a des cours de tibétain sur la base du volontariat, bien sûr. Enfin, les parents sont volontaires, hein, les enfants, je ne suis pas sûre. Donc, les parents emmènent les enfants faire du tibétain pendant 3-4 heures et puis l'après-midi, ils font plutôt des jeux. Donc, ça, c'est le dimanche. Donc, sachez que vos enfants tibétains dans vos cours, le dimanche matin, en général, ça dépend lesquels, mais voilà, ils ne font pas jouer au foot, ils vont faire du tibétain avec un type d'enseignement qui n'est pas du tout le vôtre. Je pense, très top-down, c'est-à-dire que le prof, c'est beaucoup de par cœur hein, au Tibet, c'est l'éducation à l'asiatique, donc c'est du par cœur, et donc ça c'est la vraie éducation pour les parents tibétains, donc attendez-vous aussi à avoir des remarques, hein, si vous interagissez beaucoup, si vous demandez beaucoup aux enfants ce qu'ils pensent, etc., les parents vont être assez désarçonnés. Il y a des manifestations pro-tibétaines tous les ans qui commémorent le soulèvement tibétain de 59 au Trocadéro. Donc là, beaucoup de Tibétains s'y retrouvent, des centaines de Tibétains. Et puis, ils ont investi, si vous êtes vers La Chapelle ou Stalingrad, il y a beaucoup de Tibétains qui sont dans les rues, la ligne 2 du métro, on entend régulièrement des Tibétains. Ils sont à La Chapelle, quartier indien. Ils ne sont pas allés au quartier chinois, ils sont au quartier indien. Hein, donc, ils vont manger dans les restaurants indiens, ils vont boire des thés là-bas. Et ils sont dans un parc à Stalingrad. Ils se retrouvent à plusieurs centaines d'entre eux. Ils jouent entre eux souvent le samedi et le dimanche. Donc il y a une grande sociabilité et un besoin vraiment important de se retrouver ensemble. Alors pour vous parler de la valorisation de l'écriture tibétaine, c'est un ami tibétain. Alors il est professeur d'université à Pékin. On enseigne le tibétain à un niveau universitaire à Pékin et il m'a envoyé la photo de sa fille de 2 ans qui fête son anniversaire. Et donc, vous avez, elle tient un livre tibétain et il a fait imprimer ce petit manteau qui est espoir du futur en tibétain. Donc vraiment, cette angoisse que le tibétain, Camille Simon disait quelle grosse pression ils mettent sur leurs enfants. Certes, mais ils sont très angoissés parce que la langue tibétaine est en mauvais état. Donc voilà, c'est vraiment important pour eux de maintenir cette langue tibétaine vivante. Alors, deux petites remarques culturelles avant de passer sur la langue. L'état civil, en fait, là, c'est surtout sur la base de nos expériences en interaction avec les instituteurs et les enfants. Ne soyez pas étonnés, donc les enfants n'ont pas de nom, les Tibétains n'ont pas de nom de famille. Donc, quand vous avez des listes d'élèves avec prénom et nom, au début, pour eux, c'est un peu bizarre, parce que le concept de nom de famille, ils m'appellent toujours Madame Françoise. Ils n'ont pas compris que Françoise, c'est un prénom, on ne dit pas Madame devant, etc. Donc, dans les interactions avec vous, ainsi que dans les prénoms des enfants et les noms, c'est très bizarre. Donc, ne vous étonnez pas non plus que le père et la mère, en général, ils ont des doubles prénoms. Voilà, maman s'appelle Marie-Jeanne, papa s'appelle Jean-Paul, et l'enfant va s'appeler Sébastien Romain. Voilà, c'est pas que c'est une famille composée, simplement ils n'ont pas de nom de famille, d'accord ? Sauf que arrivé en France, souvent ils se collent un nom de famille parce qu'on est obligé de remplir la case nom de famille, mais il est inventé de toutes pièces. Parfois c'est le nom du village d'où ils viennent, parfois c'est le nom du père avec lequel ils ont rajouté le petit Tsang. Il s'appelle peut-être Tsang, parce que Tsang ça veut dire famille, donc famille de papa qui s'appelle, mettons Dorje, donc il va s'appeler Dorje Tsang, donc ils vont voilà. Ah, Kelsang, pas Tsang, ça c'est le prénom Kelsang, le bon augure, ça veut dire bon augure. Mais c'est un prénom. Mais c'est quoi son nom de famille ? Ah voilà, ben alors, ok d'accord, donc il a deux prénoms, Tenzin. Alors Tenzin, ils s'appellent tous Tenzin, parce que c'est le nom du Dalai Lama. Donc en fait, on demande, enfin ils sont tous, disons, c'est un hommage au Dalai Lama, donc imaginez comme nous, je ne sais pas, le pape François, tous les enfants là s'appelleraient François-Paul, François-Jacques, François-Marie, François... Bon. Ben là c'est pareil, ils s'appellent Tenzin X, et X c'est un deuxième prénom, bon, il y a beaucoup d'homonymie, c'est compliqué, et par là-dessus, normalement ils ont un nom de famille, mais là, comme ils n'ont pas bien compris le truc, ils ont dit, les autorités françaises n'ont pas bien compris le truc évidemment, donc elles ont dit prénom Tenzin, nom de famille Kelsang, mais ce n'est pas du tout son nom de famille, c'est son prénom, vous voyez. Et parfois même, on a le prénom qui est coupé en deux parce qu'il y a des prénoms trisyllabiques. Donc moi, j'ai une amie qui s'appelle Oshuki, prénom, pas de nom de famille. Eh bien, elle est devenue Madame Oshu, prénom, nom de famille, qui. Sauf qu'en fait, c'est juste la troisième syllabe de son prénom. Ah ben voilà, parce que... Ben oui, Tenzin, pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de nom de famille. Et oui, donc on a des gens comme ça, des noms redupliqués, parce qu'il faut remplir la case. Donc voilà. En Chine, on met XXX, on a le droit de ne pas avoir de nom, mais en France, il faut avoir un nom de famille. Donc voilà. Donc ne vous, voilà, vous risquez, même parfois, on les appelle, ils ne reconnaissent pas leur nom, parce que ce n'est pas du tout. Tenzin, ça va, c'est son. Mais parfois, comme ils ont inventé leur nom ad hoc pour l'administration française, vous dites monsieur, madame Dorje Tsang, sauf qu'en fait, ils l'utilisent une fois par mois dans l'administration française, donc ils ne vont pas se reconnaître. Donc, comprenez le problème des noms de famille. Également, autre question qu'on a eue avec un petit enfant qui n'avait pas de frères et sœurs et qui n'arrêtait pas de dire à son prof, eh oui, mon frère, ma sœur... Le prof était vraiment ennuyé, parce que, mais bon, alors, ils vont convoquer les parents, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils ont pas de frères et sœurs, vous me dites qu'il n'y a pas... Et en fait, c'est que comme en Chine, par exemple, le terme d'appel... C'est grand frère, grande sœur, petit frère, petite sœur, maman, papa pour les adultes et grand frère, grande sœur pour les enfants plus âgés, petit frère, petite sœur pour les... Donc, X m'a cogné dessus. Si X est un garçon plus âgé, il va dire grand frère. Allez, donc, mon grand frère m'a tapé dessus. Non. Donc, il risque en français de redupliquer ça, bien sûr, de répliquer et de dire grand frère m'a tapé. Non, c'est juste quelqu'un plus âgé que lui l'a frappé ou lui a donné un cadeau. Ça peut être aussi sympathique. Hein, voilà. Et maman, c'est pareil. J'ai des amis tibétains qui écrivent à ma mère et qui disent « chère maman ». Parce qu'en fait, on dit maman pour les mères des amis ou des gens en général. D'ailleurs, une femme, ça se dit une mère. Alors, ça, c'était l'aspect plus culturel, disons, interaction culturelle et ambiguïté. Rapidement, la langue tibétaine, donc, c'est une langue, ça s'appelle la famille des langues sino-tibéto-birmane, donc chinois, tibétain, birman, c'est tous le même grand groupe. D'accord ? Mais très vite, vous avez un embranchement chinois d'un côté, tibéto-birman de l'autre, et même le birman est assez éloigné du tibétain. Donc en gros, quand on parle tibétain, on n'est pas très bien équipé dans le monde, parce qu'on a quand même une famille de langues assez spécifiques. Donc comme je l'ai dit, de très nombreux dialectes, on parle même de langues. Il y aurait 25 langues et 250 dialectes, parfois avec très peu d'intercompréhension. Une écriture qui a été créée au 7e siècle, on a les sources. Donc elle est composée de 30 consonnes et 4 voyelles. Donc c'est un alphabet, c'est un alpha syllabaire. C'est-à-dire que ce n'est pas, donc c'est Kakakanga, elles sont le rendu et vous voyez en dessous, hein, Kakakanga, Tchatchachania, etc. C'est copié ou inspiré d'un alphabet d'Inde du Nord. Toutes les langues d'Asie du Sud-Est et du Sud, tamoul, thaï également, khmer, sanskrit, tous fonctionnent sur cette base. Donc vous avez en fait, c'est l'appareil phonateur. Vous avez ici les vélères, hein, Kakakanga, et puis Tchatchachania, Tatatana, Papapama. Donc on va de la vélère à la labiale, vous voyez, au point d'articulation. Et ça, c'est en alphabétique du tibétain. Donc on apprend ça par cœur, on apprend les quatre signes voyelles. Donc il suffit d'ajouter un petit signe sur la première pour passer de K à Ki, par exemple, pour passer de K à Ku, de K à Ke. Hein. Vous avez un signe voyelle qui vient se greffer là-dessus et qui va changer la prononciation. Et les Tibétains donc attribuent l'influence. Donc c'est un des rares alphabets dont on sait qui l'a créé. Hein, c'est Monsieur Tommy Sambocha qui l'aurait créé au 7e siècle. Alors supposé parce que les traces écrites sont même assez faibles. Enfin, on a des sources attestées. La plus ancienne source c'est 764. Donc c'est une langue qui a une très très vieille histoire, très prestigieuse puisque c'est la langue du bouddhisme tibétain et à laquelle ils tiennent énormément. Alors le système d'écriture. Donc pour vous qui enseignez aux enfants le système d'écriture. Alors il n'y a pas d'espace entre les mots. Les mots ne sont pas. On aurait pu coller, hein, pas d'espace entre les mots. On a aussi. Voilà, on écrit comme ça, en fait. Sam, on fait des points entre les syllabes. Sam, ten, e, mon, ami. Et donc, tout le jeu, mais nous, quand on apprend le tibétain, c'est pareil. Hein, où est-ce que ça coupe? Eh bien, eux, ils auront du mal, peut-être. Ils auront peut-être envie de me décrire tout collé. Hein. Donc, vous voyez, là, c'est le tibétain. Aucun espace. Donc, sam, ten, c'est le prénom, ça s'arrête là. Hein. Mon ami, c'est là, et e. Hein. Et puis, donc, vous habitez à Paris. Donc, vous voyez, on vous avait fait une sorte de simulation. Voilà comment ça marche, hein, pour les tibétains. Donc, attention à la césure, hein, entre les mots, aux espaces qu'ils ne pratiquent pas. Il y a eu des tentatives, mais ça n'a pas été accepté par les Tibétains. Donc, pour l'instant, ils gardent cette écriture. Pas de majuscules, pas de points, pas de virgule. Donc, les systèmes de ponctuation sont très peu connus des Tibétains. Majuscules et minuscules, ils ne comprennent pas très bien non plus l'intérêt, hein, ou la raison d'être. Alors, la phrase, elle est sauvée. Mais ça, je pense que vous, tout le monde connaissez. Sujet, objet, verbe. Mais en fait, ça n'est pas une exception. C'est peut-être la règle. Donc, de tout, mais c'est nous qui sommes un peu bizarroïdes. Donc, les Tibétains ont une langue sauvée. Donc, évidemment, le risque est que le verbe soit rejeté à la fin de la phrase. Alors, vous regarderez, on a fait une fiche vraiment en essayant d'anticiper, hein, de se dire, voilà, nous, on côtoie des Tibétains, on les entend parler français, on comprend leurs problèmes, on apprend le tibétain, donc on sait en gros quels sont là où ça peut coincer pour apprendre le français. Là, on a juste mis deux, j'ai plus qu'une diapositive à vous montrer parce que je ne vais pas refaire toute la présentation, vous regarderez. Mais peut-être ce sur quoi on n'a pas assez insisté, c'était l'omission de toutes les informations clairement indiquées par le contexte, c'est-à-dire que les pronoms, personnel, complément d'objet indirect, hein, les Y, les EN, hein, il m'en a parlé, etc. On va pas l'employer. Donc, par exemple, vous avez la phrase Samten ki nyugu tchechos lava imbes. Tu as dit à Samten de te passer le stylo. Donc, le tu est entre parenthèses, pronom personnel clair, puisqu'on emploie dans la forme verbale une forme qui ne peut être qu'une deuxième personne, donc on le dit pas à l'oral. De te passer, c'est sous-entendu, sinon on dirait à qui, mais si ça n'est pas expliqué et exprimé, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un co-référent, hein, entre le sujet et l'objet indirect. Tu as dit à Samten de te passer. Et puis, le stylo, il y a juste marqué stylo. Voilà, donc c'est à vous de. Alors là, c'est carrément le pronom personnel, c'est le son, ou même carrément l'article indéfini, le, qui va passer à la trappe. Donc tu as dit. Hein, a dit à Samten passer stylo. Voilà ce que les Tibétains diront. Donc ils auront du mal avec les pronoms qui sont très compliqués en français. Hein. Et la réponse, elle va être très laconique. Il va dire lavein, c'est-à-dire reprend le verbe. Donc ça, c'est parler. En étant, voilà, ça, c'est le groupe verbal avec la marque d'interrogation qui n'a pas de ton montant. Oui, là aussi, les enfants, il n'y a pas de ton montant pour l'interrogation. Hein. Donc, tu as donné, ils vont dire, tu lui as donné, et une marque d'interrogation qui est vocalisée, hein, qui est ici paix. Tu lui as donné paix. Ça veut dire, est-ce que tu lui as donné, hein. Donc, ça, on laisse tomber ce mot interrogatif, et donc on reprend juste le groupe verbal, et on va dire la veïne, qui veut dire dit. J'ai dit. Voilà, donc je, le, lui, ai dit. Ça sera très compliqué à formuler, hein, pour un enfant. Non, c'est pas tout à fait la dernière, la phrase. Alors, la phrase aussi, le pronom interrogatif ne se place pas en début d'énoncé, mais juste avant le verbe. Le verbe est toujours à la fin, c'est une langue SOV, Et le mot interrogatif qu'on vous a mis en, bleu, en vert est toujours à la fin. Donc vous risquez d'avoir aussi des productions d'énoncés. Hein, Samten est allé au Tibet quand ? Ça marcherait aussi. Hein, ou Samten quand est allé au Tibet ? Peut-être tout près du verbe, juste avant le verbe. Voilà, ce sera plutôt ça. Hein. Samten quand est allé au Tibet ? Non. Hein, donc ça, ce sera une. Il ne faut pas vous étonner. Hein, c'est juste un calque du tibétain. Le verbe, pas d'imparfait. Hein, donc c'est ce qu'on appelle l'inaccompli. Hein, donc il n'y a pas d'imparfait. Il va être déduit du contexte en tibétain. Donc si vous regardez, maintenant vous êtes expert en tibétain, vous voyez que c'est la même chose ici et ici. Bon, ça au moins vous reconnaissez graphiquement que c'est la même chose. Donc ça c'est le verbe rester ou habiter, loger, demeurer. Et ça c'est le suffixe verbal. Vous voyez, c'est le même. Et donc c'est habiter, ce qu'on appelle égophorique, première personne, présent imparfait. Et donc, selon que vous, ça va tout dépendre de votre adverbe ici. Maintenant, j'habite à Paris. Les Tibétains, les enfants vont sûrement dire avant, j'habite à Paris. Avant, j'habite en Inde. Parce que l'imparfait, pour eux, c'est. Voilà, ça n'a pas d'existence en tibétain. Donc, voilà, attention au problème imparfait est présent. Et puis, le verbe pronominal. Alors, c'est déjà très compliqué, de toute manière, je pense, pour beaucoup d'étrangers, hein, le pronominal. Alors, il n'existe pas en tibétain. Donc, si on dit. Donc, voyez, il se lave. En tibétain, on va dire il corps lave. Voyez, on ne peut pas dire il lave son corps. On va juste dire, bon, par défaut, on lave son propre corps. Hein, sinon, on dirait il lave le corps d'autrui. Hein, donc, il se lave. Donc, ce sera ça le pronominal. Il se lave les mains. Ce sera la même chose. Il main lave. Alors, les verbes pronominaux du style s'asseoir. Hein, donc, on va utiliser par exemple des choses du style. Bah, c'est le même vivre, habiter, demeurer que j'habite à Paris tout à l'heure. Hein. Vous avez bien évidemment reconnu. Et donc, s'assoit ou habite en bas. Hein, donc, il est logé en bas égale il s'assoit. Et puis, le réciproque, hein, ils se parlent l'un l'autre, qui n'a pas le même sens que ils se lavent les mains, évidemment. Ils se parlent, là, on aura éventuellement, mais on l'a mis entre parenthèses, un partsur qui veut dire vers autrui et vers moi. Donc, c'est un centrifuge, égocentripète, partsur. Hein, donc, ça voudra dire de l'un vers l'autre. Et ça, ce sera il se parle, troisième personne du pluriel. Et dernier slide, le problème du passif, il n'y a pas de distinction. S'il y a des questions, je sais qu'on est un peu pressé par le temps, donc j'ose pas trop. Mais s'il y a des questions, je ne sais pas si on a une minute après. 5 minutes, d'accord. Donc, le passif, donc il n'y a pas de passif, pas de distinction passif-actif. Hein. La voix passive, ça va être très compliqué pour les enfants tibétains. Ils ne sont sûrement pas les seuls hein, à absorber. Donc, on vous a mis le même groupe verbal ici. Ça, vous voyez, c'est la même chose. C'est le même dessin, hein. C'est les mêmes caractères. Réparer plus passé. Sebré, 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 sebré. Et vous voyez les traductions. Samten a réparé la voiture a été réparée ou la voiture a été réparée par Samten. Tout ça, c'est exactement la même chose. On dit Samten, la voiture réparée passée. La voiture a réparé passée. On sait bien que ce n'est pas la voiture qui se répare toute seule. Donc, c'est quelqu'un qui a réparé la voiture. Ou bien on le met en passif, la voiture a été réparée. Et puis, si on veut insister sur une sorte de mise en emphase, hein, la voiture, c'est Samten qui l'a réparée. Sur cette mouture-là, vous voyez, c'est la même phrase. On a juste mis Samten entre les deux. Mota, Samten qui se brait. Là, j'insiste sur Samten. En fait, c'est exactement la même chose celle-là, mais c'est le mota. Mota, c'est un emprunt à l'anglais, motor. Donc, c'est un des rares emprunts que les Tibétains ont en tibétain. Donc, mota, ici, il est au milieu, c'est l'ordre classique, S-O-V. Et là, c'est l'ordre bouleversé, O-S-V, où là, il y a une emphase, et la voiture, c'est Samten qui l'a réparée, ou la voiture a été réparée par Samten, et là, c'est Samten et pas quelqu'un d'autre qui l'a réparée. Hein, donc, vous voyez, l'ordre des mots va beaucoup jouer aussi en tibétain, et donc, rien ne vous indique qu'il y a une traduction possible avec un passif plutôt qu'un actif. Voilà ce que j'avais à vous dire. Est-ce que vous avez des questions ? Ah oui, comment on dit merci ? Eh bien, Anne le sait, puisqu'on allait manger dans un restaurant tibétain. Oui ? Oui ! Qui a dit ça ? Super ! Très bien ! Voilà, tout jiché. C'est un. Alors, pareil, hein, nous on dit merci à toutes les sauces, madame, madame, une baguette, merci, oui, merci, 2 euros, merci. Hein. Twitchitché, ça veut dire vous avez fait preuve de très grande compassion envers moi. Donc, quand on va acheter une baguette, on ne dit pas tujitsé à tous les... Donc, aussi, c'est vrai qu'on aurait pu le dire dans l'interculturel. Bon, en même temps, ils se plient en deux, les parents, parce que face à l'autorité, ils vont se plier en deux. Mais ils ne savent pas, par exemple, à quel moment il faut dire merci. En général, on ne dit pas merci, on ne dit pas bonjour, on ne dit pas au revoir. Donc, l'interaction est différente au quotidien. Donc, ne soyez pas offusqués.